en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, Président. Alors, mes chers consoeurs, mes chers confrères, l'inflation n'est pas seulement monétaire, elle peut être aussi législative. Et dans ce dernier domaine, le droit pénal de fond, le droit pénal spécial et la procédure pénale sont dramatiquement frappés. On ne compte plus les lois pénales. Les professionnels du droit se perdent fréquemment dans ce maquis législatif et réglementaire, qui n'est désormais accessible qu'à quelques initiés, ce qui affecte notablement la sécurité juridique à laquelle chacun a pourtant droit. Le code pénal et le code de procédure pénale, qui devraient servir de phare ou de boussole, ne sont, en dépit des efforts des éditeurs spécialisés, que rarement à jour, et la direction des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice, telle Pénélope, dont une belle tapisserie orne le bureau de son directeur, remet sans cesse sur le métier son ouvrage. Alors pourquoi une telle frénésie législative en matière pénale? Qui inspire les réformes pénales et procède-t-elle d'une démarche rationnelle? Il fut un temps pas si lointain où la loi pénale, rêvons, s'élaborait au terme d'une longue réflexion préalable. Après de nombreuses auditions, au vu de travaux approfondis, réalisés en étroite liaison avec la section de l'Intérieur du Conseil d'État et les commissions des lois des deux assemblées. Puis venaient les débats au Parlement et l'adoption d'un texte, plus ou moins consensuel, censé s'appliquer pour une période que l'on espérait d'une raisonnable durée. Il s'agissait soit de répondre à des formes nouvelles de criminalité, soit de traduire en forme législative les propositions issues de rapports clôturant les travaux d'une commission composée de sachants, soit de prendre en compte l'évolution de la science et des techniques, soit d'intégrer des normes de droit international ou européen, ou de se conformer aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Ce temps est révolu. Depuis 40 ans, les lois se multiplient à un rythme effréné et les attentats commis sur le territoire national depuis janvier 2015 ont encore accéléré ce rythme. La loi pénale, devenue essentiellement réactive, s'est en se stratifiant comme les couches d'un millefeuille, peu à peu effritée. De quand date donc ce tout pénal et quelles en sont les raisons? Tout s'est précipité, selon moi, à compter de la loi du 2 février 1981, dite loi Sécurité et Liberté. Le président Giscard d'Estaing n'a pas vraiment répondu à une question qui lui avait été posée il y a un mois. Portée par Alain Perfitte, alors garde des Sceaux, cette loi fut vivement contestée par certains. Avec l'alternance de mai 1981, l'abolition de la peine de mort, la suppression de la Cour de sûreté de l'État, l'abrogation de cette loi Sécurité et Liberté, qui n'avait été mise en œuvre que depuis quelques mois seulement, les questions de sécurité vont très vite prendre une place excessive dans le débat politique. Ce sera rarement l'occasion de discussions de très haut niveau, ce sera plutôt, trop souvent, prétexte à un débat politicien, parfois partisan, et cela au détriment de l'importance majeure d'un sujet qui a pourtant tellement besoin de consensus. Et il en est toujours de même de nos jours. Les alternances s'étant succédées, le terrorisme de grande ampleur ayant fait son apparition, les médias occupant de plus en plus de place, l'opinion publique ayant de son côté, sous le coup de l'émotion que provoque un fait divers, largement investi ce domaine, l'État enfin, a fortiori lorsque l'on est en période électorale, et nous y sommes souvent, ayant toujours à cœur en ce domaine de ne surtout pas encourir le reproche d'être en reste lorsque l'opinion l'interpelle. En grossissant le trait, on pourrait presque soutenir que tout fait divers traité par un journal de 20 heures est aujourd'hui virtuellement une loi. Il faut, mais il suffit, que ce sujet suscite la compassion, la passion ou l'indignation, pour qu'aussitôt les responsables politiques jugent qu'il s'impose de prendre sans délai en considération l'émotion qui s'exprime, de la relayer en déposant un projet ou une proposition de loi, et de donner à ce texte la priorité dans le calendrier parlementaire. Je voudrais simplement essayer de tourner mes pages. Voilà. Alors, tentons, voulez-vous, d'être un peu plus précis et surtout plus concret. Comment l'opinion publique et l'émotion qui la nourrit, et bien souvent qui la guide, influent-elles, agissent-elles sur l'élaboration des lois pénales? Nous commencerons dans une première partie par quelques nombreuses généralités, afin de tenter de comprendre comment d'un événement de nature à émouvoir, on peut passer en quelques mois à une nouvelle loi pénale. Nous nous demanderons si en ce domaine l'opinion publique est toujours unanime ou si elle se divise. Nous verrons quels sont les relais qui se mobilisent, puis nous nous arrêterons sur le délai de réaction des pouvoirs publics, apparemment toujours aptes à répondre au plus vite et parfois même dans la précipitation à ce qui mobilise l'opinion publique. Dans une deuxième partie, nous verrons à partir de quelques exemples, et ils sont pourtant légion, les aspects positifs de ce phénomène et en quoi l'opinion publique peut être un facteur d'amélioration de la loi pénale. Puis nous aborderons tout naturellement, dans une troisième partie, les aspects négatifs d'un tel comportement et les risques de fragilisation, de complexification, de régression de la loi pénale, voire d'obstacles mis à l'adoption de réformes pourtant souhaitables. Alors tout d'abord, première partie, la place de l'émotion et le rôle de l'opinion publique dans l'élaboration de la loi pénale. Examinons tout d'abord les facteurs déclenchants. À l'origine de cette forte exigence de pénalisation qu'exprime l'opinion publique, on peut citer, entre autres facteurs déclenchants, le fait divers. La loi est de plus en plus souvent conçue et votée à chaud, sous le coup de l'émotion, en réaction à des événements, des faits divers, une affaire judiciaire, voire un faux pas judiciaire, que les médias ou telle partie de l'opinion publique ont volontairement ou non notablement dramatisé. L'opinion publique, nous le savons, est prompte à s'enflammer et à s'émouvoir, parfois intensément, démesurément. Cette émotion peut être sincère, mais la curiosité, le voyeurisme et des arrière-pensées politiques occupent aussi souvent une large place. Dissiper cette émotion de manière rationnelle devient de plus en plus difficile, et les tentatives d'explication, qu'elles émanent de politiques ou de professionnels, s'avèrent insuffisantes. Même si le taux d'échec est infinitésimal, on n'admet plus qu'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortie ou d'une libération conditionnelle commette une infraction durant l'exécution d'une telle mesure. Et l'on réclame, politique en tête, une réforme restreignant leur possibilité d'octroi. Loin de se fonder sur des considérations de portée générale, la loi a de plus en plus tendance à s'inspirer de faits divers, devenus des référents politiques majeurs. Autre facteur déclenchant, l'exaspération, en présence non plus de faits divers, mais de faits de société. Chaque fois que l'opinion publique est heurtée par des comportements nouveaux qui la choquent, ou par la répétition de comportements anciens, jusqu'ici tolérés, mais qu'en raison de leur répétition, elle décide de ne plus accepter, elle réclame une loi pénalisant ces comportements, ou un changement de la loi existante, ou encore la création de nouvelles circonstances aggravantes. Plutôt que de rechercher si la loi existante ne devrait pas tout simplement être mieux appliquée, avec notamment un renforcement numérique et une meilleure organisation des fonctionnaires chargés de constater les infractions commises, on exige d'emblée plus de répression, car l'idée est tenace selon laquelle hors du pénal, point de salut. Ainsi, depuis une loi du 17 juin 1998, le bizutage est-il puni d'une peine délictuelle de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Sans nier la gravité que peuvent avoir parfois de tels faits, ne pouvait-on se contenter des délits permettant déjà de réprimer des actes de cette nature et qualifier ces faits d'injures, de violences, voire de coups et blessures? Ne pouvait-on rappeler leurs obligations aux responsables des établissements d'enseignement supérieur concernés? Tel n'a pourtant pas été le cas, et ce dispositif répressif spécifique ne semble d'évidence pas avoir mis fin aux faits de cette nature. Depuis une loi du 9 septembre 2002, une infraction spéciale punit les auteurs de tags, alors qu'il existait déjà un délit de dégradation qui est aggravé s'il s'agit de biens d'utilité publique. On pourrait aussi parler du délit d'incitation à la mendicité, si difficile à réprimer, ou encore de la loi du 24 juin 2015, venue préciser certains aspects de la répression des entrées et du maintien dans le domicile d'autrui, autrement dit les squats. En réalité, le législateur ne cherche pas, comme autrefois, à englober dans une infraction de portée assez générale des comportements illégaux quotidiens, il raffole des délits spécifiques et de plus en plus précis, et il les multiplie sans préalablement s'assurer qu'ils pourront être effectivement constatés et réprimés. On peut encore citer l'aggravation de 3 à 5 ans d'emprisonnement de la peine encourue pour des faits de vol s'ils sont commis dans un transport collectif de voyageurs ou dans un établissement d'enseignement ou aux abords de celui-ci, lors des entrées ou sorties des élèves. La sanction de tel comportement qu'à juste titre l'opinion ne supporte plus s'impose. Mais s'imposait-il de créer une circonstance aggravante liée à la présence dans un moyen de transport ou à la proximité d'un lieu d'enseignement lorsque l'on sait pertinemment que le maximum de 3 années d'emprisonnement prévu pour le vol simple est en réalité rarissimement prononcé. Autre facteur déclenchant, le besoin de sécurité. Cette multiplication des réformes pénales s'explique aussi sur un plan général par l'intérêt croissant et renforcé de nos concitoyens pour les questions de justice et de sécurité. Au-delà même de la sécurité des personnes et des biens que chacun revendique, est apparu ce que dans les années 1970, on a appelé le sentiment d'insécurité. Il s'agit de ces peurs, diffuses et difficiles à formuler, que l'on éprouve pour soi, pour ses proches, en raison de ce que l'on lit, de ce que l'on voit, de ce qui se passe. Il s'agit aussi de ce que l'on appréhende dans un monde qui bouge et une société dans laquelle on ne se reconnaît plus ou alors mal. Le pouvoir politique entend donc dire au plus vite « je vous ai compris ». Comptez sur moi pour répondre et en agissant ainsi, il va montrer à quel point il est attentif aux préoccupations de ses concitoyens et de ses électeurs. Et c'est ainsi que la procédure législative et singulièrement la loi pénale, sont devenus un instrument de communication. Autre facteur déclenchant, l'intolérable. L'inflation pénale, au-delà des faits divers et de ce que l'on ne supporte plus, s'explique également à certaines époques par la survenance de phénomènes brutaux, intenses, tels que les attentats de ces dernières années. Dans un contexte de tensions extrêmes et de drames, les pouvoirs publics considèrent là encore qu'ils doivent répondre, et c'est évident, mais aussi souvent devancer les demandes les plus répressives de l'opinion. Ils ne peuvent en aucun cas prendre le risque d'être tenus pour responsables d'un nouvel attentat, aussi va-t-on légiférer en urgence et à profusion, faute de pouvoir régler ce qui est à l'origine de ces drames. L'opinion publique est-elle unanime ? Sans doute quelques opinions individuelles recueillies à chaud sur les lieux d'un événement sont-elles susceptibles, si elles sont intensément médiatisées, d'être reprises en compte par le plus grand nombre et d'être à l'origine d'un mouvement d'opinion plus ou moins général. De même, les circonstances, les conséquences dramatiques d'un attentat suscitent-elles aussitôt, et à juste titre, un formidable et unanime courant d'émotions. Sous ces importantes réserves, l'opinion publique est rarement unanime. Nous savons que les groupes sociaux s'opposent sur le traitement à donner aux différents illégalismes, selon que l'on est soi-même plus ou moins tolérant ou plus ou moins légaliste. Il existe des conformistes répressifs, très attachés à des valeurs traditionnelles, des humanistes progressistes, favorables à des changements, voire à plus de permissivité, mais de manière modérée, et puis des contestataires, qui considèrent que l'appareil pénal ne fait que renforcer les inégalités sociales. Et alors, il est très intéressant d'observer lesquels de ces groupes, un peu schématiquement présentés, lesquels de ces groupes, selon les périodes et les majorités parlementaires, les responsables politiques vont prioritairement prendre en considération. Je prends deux exemples sur la non-unanimité de l'opinion publique. Un exemple de réaction rapide. Fin 1975, à la suite de plusieurs accidents mortels du travail, survenus dans l'établissement qu'il dirigeait, un chef d'entreprise du Pas-de-Calais est placé en détention provisoire par le juge d'instruction saisi de ce dossier. L'émotion fut très vive dans la classe politique et dans une partie de l'opinion publique, en particulier dans les milieux patronaux. Il en alla différemment du côté des travailleurs et des syndicats ouvriers. Bien que l'opinion fût divisée, dès le 6 décembre 1976, intervint la loi relative au développement de la prévention des accidents du travail, qui apportait de nombreuses modifications, notamment de nature pénale, à ce secteur du droit du travail. Un exemple de réaction un peu différée. Dans les années 1980-90, nous avons assisté à un important développement des poursuites, jusqu'ici assez rares, exercées pour infraction aux lois sur les sociétés, et notamment pour abus de biens sociaux, contre des dirigeants d'entreprises indélicats. Une partie de l'opinion publique et de la classe politique s'en est émue, et cette émotion a redoublé lorsque l'on a constaté, ce qui n'était pas nouveau, que le délai de prescription ne partait en matière d'abus de biens ou de crédit que du jour où l'infraction, dissimulée, avait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Émotion, réaction, des commissions et groupes de travail ont été constitués. Des propositions de loi ont été déposées, mais non débattues, car le sujet était politiquement très sensible, une partie de l'opinion publique étant susceptible de ne pas accepter ce qui pourrait être perçu comme de l'autoprotection. Il fallut attendre une réforme d'ensemble du régime de la prescription pénale par la loi du 27 février 2017 pour, en définitive, maintenir le statu quo et confirmer la jurisprudence existante, tout en prévoyant, en cas d'infraction dissimulée, que le délai de prescription ne pourrait dépasser 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes. Dans un tout autre domaine, relevons que c'est à la demande ou sous la pression d'habitants de certains quartiers et de certaines associations militant à juste titre en faveur de la dignité de la femme, mais contre la volonté des associations de terrain luttant contre la traite des êtres humains, que seront adoptées la loi du 19 mars 2003 faisant du racolage passif un délit. Ce texte sera toutefois abrogé par une loi du 13 avril 2016 qui, en revanche, pénalise cette fois le racolage actif. Est-ce que ce type de comportement relève réellement du droit pénal? On peut se le demander, car les poursuites sont rares. La réaction pénale ne doit-elle pas plutôt, car ils n'ont pas disparu, se focaliser en priorité contre les proxénètes? Le débat parlementaire n'a pas éteint la controverse qu'a ouverte la décision de légiférer. Les organes de transmission. L'émotion que suscite un événement, une décision politique ou judiciaire, ou plus généralement un fait divers, vient aussitôt, a fortiori, s'ils sont repris par les médias, frapper de plein fouet les pouvoirs publics. Ce sont les médias qui, bien souvent, et avec aujourd'hui le renfort des réseaux sociaux, façonnent en urgence l'opinion et se font son interprète. Et ils le font de manière brute, et parfois brutale, sans analyse véritable, ou tout au plus après avoir interviewé ou réuni en urgence un plateau d'experts, toujours disponibles, censés réagir à chaud, sans recul suffisant et sans réelle mise en perspective. Je ne reviendrai pas sur la phrase « La France a peur » prononcée par le présentateur du 20h de TF1 le 18 février 1976, le lendemain de l'arrestation de Patrick Henry, meurtrier du petit Philippe Bertrand, pas plus que sur l'impact qu'elle a eu, mais beaucoup plus près de nous. Et sur un tout autre plan, le comportement prêté à un producteur de cinéma américain qui a aussitôt fait l'objet d'une couverture médiatique d'une rare intensité a suscité une vive émotion. Ces manifestations d'émotion exprimées et diffusées en direct, première étape, sont ensuite, deuxième étape, reprises en compte et relayées, soit institutionnellement par les élus, soit corporativement par des syndicats, des associations, des groupes de pression, une profession, soit plus ou moins formellement par des comités de soutien, des tribunes, des pétitions qui exigent des pouvoirs publics qu'ils réagissent sans délai. Et les responsables politiques n'ont alors souvent d'autres ressources, c'est du moins ce qu'ils pensent, que d'affirmer, j'y reviens, que tout sera fait pour sanctionner de tels comportements et de mettre aussitôt en chantier, sous le coup de cette émotion collective, une nouvelle réforme législative pour y parvenir. Et sans que l'opinion publique, au sens large du terme, ait même besoin d'entrer en scène, il arrive que l'émotion manifestée par une seule profession suffisent parfois à déclencher à bref délai une modification législative. En juin 2004, une avocate fut poursuivie et détenue provisoirement quelque temps sur le fondement d'une disposition du Code pénal réprimant la révélation à un tiers d'informations contenues dans un dossier d'instruction, révélation qui aurait permis la dissimulation d'une partie du produit d'un blanchiment de sommes d'argent. Devant l'émotion, la colère des barreaux, protestant haut et fort, un groupe de travail fut aussitôt réuni et la loi du 16 décembre 2005 a réécrit dans un sens plus restrictif le texte fondement de cette poursuite, texte qui était issu d'une loi pourtant toute récente du 9 mars 2004. La réaction des pouvoirs publics est de plus en plus rapide. En 1987, sous le coup de l'émotion suscitée par un accident mortel de la circulation, et du mouvement d'opinion qu'il avait suscité, conduite en état alcoolique, victime jeune, le garde des Sceaux de l'époque a tenu à déposer au plus vite un projet de loi tendant à la modification du seul article L1 du Code de la route afin de baisser le taux légal d'alcoolémie et d'aggraver ainsi la répression. Il obtint satisfaction sur cet article unique du projet de loi. Mais par le biais d'amendements parlementaires, quelle aubaine, ce seront en définitive sur un sujet aussi émotionnel, une dizaine d'articles du Code de la route qui seront alors modifiés en séance, dans une certaine précipitation, sans étude d'ensemble préalable pour s'assurer de la cohérence de ces modifications. Notons toutefois qu'en matière de circulation routière, les dispositions législatives plus répressives vont le plus souvent à l'encontre de la majeure partie de l'opinion publique qui les juge trop contraignantes et l'annonce récente de limiter la vitesse à 80 km/h en est un parfait exemple. Il arrive donc parfois que le législateur pénal aille en ce domaine à l'encontre de l'opinion, c'est suffisamment rare pour être relevé. Le comportement de Jérôme Cahuzac est révélé en avril 2013. L'émotion est à son comble. La loi créant le parquet national financier est adoptée 7 mois après et cette nouvelle structure commencera ses travaux dès le premier trimestre 2014. Il est difficile d'aller plus vite. Parfois, une grande agitation, un peu désordonnée, fait suite à une longue période de léthargie. Ainsi en est-il de la délinquance dite d'affaires et de celle qui concerne le financement des formations politiques. Après une longue période de tolérance, durant laquelle les poursuites étaient rares, pour ne pas dire inexistantes, les magistrats, à la fin des années 80 et au cours des années 90, en tout cas au début des années 90, vont se spécialiser et s'intéresser à cette forme de délinquance. L'émotion s'empare tout naturellement des milieux politiques concernés, d'abord à gauche, puis à droite. L'opinion publique s'émeut, elle, du comportement de ses élus. Et l'on va voter pour l'avenir des lois sur le financement des partis politiques avec incidence pénale et pour le passé, des lois d'amnistie que l'opinion publique, d'ailleurs, ne comprendra pas. Le domaine des infractions de nature sexuelle est l'un de ceux qui suscite une légitime émotion, mais aussi, depuis une vingtaine d'années, des réactions multiples, immédiates et parfois surprenantes de la part des pouvoirs publics. L'opinion, cela vient d'être dit, s'est récemment émue du comportement de prédateur qu'aurait adopté pendant des années un producteur de cinéma américain et la parole s'est libérée. La réaction ne s'est pas fait attendre et un élargissement de l'incrimination du délit de harcèlement sexuel est envisagé, tout comme est envisagée la création d'une nouvelle infraction contraventionnelle d'outrage sexiste dont les contours paraissent tout de même bien imprécis. Cette contravention viendra s'ajouter aux infractions existantes d'injures publiques, de violence, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Devant être constatée en flagrance, sa démonstration risque fort de s'avérer très délicate. Et on ne peut par ailleurs exclure, si l'on devait entrer dans une ère de délation et si des abus étaient commis, que, en retour, les peines du délit de dénonciation calomnieuse soient très rapidement aggravées. Les très nombreuses lois sur la sécurité intérieure, qui se sont échelonnées de manière accélérée du 18 mars 2003 à 2012, répondaient dans une large mesure, pour certaines d'entre elles, à des faits divers de nature criminelle très graves, spectaculaires, meurtres de joggeuses, enlèvements d'enfants suivis de mort, parfois commis par des libérés conditionnels ou des permissionnaires de sortie, ce qui ajoutait encore à l'incompréhension de tels actes, même si les auteurs avaient bénéficié légalement de telles mesures. Et plus récemment, la survenance de dramatiques attentats à compter du mois de janvier 2015 a suscité des réactions législatives immédiates à la mesure de l'émotion ressentie et du climat d'union sacrée qui s'est instauré. L'utilité symbolique de certains textes, en particulier la loi sur l'état d'urgence renouvelée à plusieurs reprises, était évidente, mais leurs effets en pratique demeurent toujours, aujourd'hui, objet de débat. Enfin, pour clôturer cette première partie, quelques mots, c'est une incidente, mais pour relever que l'émotion et l'opinion publique peuvent également influer sur le comportement des magistrats qui doivent appliquer la loi pénale et sur leur pratique professionnelle. Et les juges doivent s'en garder, et plus encore les jurés. Le 31 octobre 2017, aux Assises de Paris, devant lesquelles comparaissait Abdelkader Merah, frère du terroriste toulousain de sinistre mémoire, son avocat, maître Éric Dupont-Moretti, dans le style assez particulier qui est le sien, a mis en garde les jurés contre, je le cite, « l'opinion publique, cette prostituée qui tire le juge par la manche ». Fermez les guillemets. Il est vrai, et ce point pourrait être longuement développé, que l'opinion publique, telle que la perçoivent, et la reçoivent les jurés d'assises, peut conduire, selon les périodes et en présence de faits de même nature, au prononcé dans des ressorts différents, de peines très variables, voire parfois à des acquittements parfaitement inattendus, alors que l'on condamne dans le ressort d'à côté. De façon moins spectaculaire, les réactions que peut susciter la commission d'une infraction grave par un libéré conditionnel ou un permissionnaire de sortie, conduisent souvent les juridictions chargées de l'application des peines, et notamment les juges de l'application des peines, frappés d'inhibition, peut-être temporaire, à réduire le nombre de ces mesures, dont l'utilité pour préparer une sortie de prison accompagnée et contrôlée, éviter les sorties dites sèches, et donc favoriser la réinsertion, est pourtant tellement évidente. Passons à la deuxième partie, plus rapidement et à partir d'exemples, en quoi l'opinion publique peut-elle contribuer à l'amélioration de la loi pénale ? L'opinion publique a fréquemment conduit les pouvoirs publics à supprimer des dispositions répressives existantes. Une petite fraction de l'opinion publique, représentée par le manifeste des 343 salopes, publié dans le Nouvel Observateur du 5 avril 1971, puis un mouvement d'opinion beaucoup plus important, bénéficiant d'un concours appuyé de certains médias lors du procès dit de Bobigny, au mois de novembre 1972, conduiront, avec l'engagement personnel du chef de l'État, à la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse qui abrogera la loi du 1er août 1920 réprimant l'avortement, la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. On ne peut manquer de rapprocher de ce texte la loi du 19 décembre 1967 autorisant la contraception qui, même si elle fut comme la précédente l'objet de vives controverses, fut elle aussi portée par une partie non négligeable de l'opinion publique. Sans en réclamer explicitement la suppression, l'opinion publique, au fil des années, et en raison de l'indifférence qu'elle manifestait à leur égard, a implicitement incité le législateur à mettre un terme à la pénalisation de comportements qui, selon elle, ne relevaient plus du droit pénal. Ce fut le cas lors du vote de la loi du 11 juillet 1975 dépénalisant l'adultère, et lorsque fut votée la loi du 4 août 1982, supprimant le délit d'homosexualité. Au cours de ces dernières années, l'évolution s'inscrit toutefois plutôt dans le sens d'une plus grande répression. À la fin des années 70, l'opinion publique s'est ainsi légitimement émue de la trop faible pénalisation du viol. Les magistrats auxquels était laissée une large marge d'appréciation, ayant tendance, dans un souci de célérité, et pour ne pas ajouter à l'encombrement des cours d'assises, ayant tendance à traduire les auteurs de viol devant les tribunaux correctionnels, qui prononçaient des peines souvent jugées insuffisantes. En présence de ce mouvement d'opinion, le législateur a aussitôt réagi, et par la loi du 23 décembre 80, il a redéfini les éléments constitutifs du crime de viol, encadrant ainsi la marge d'interprétation des magistrats, et il a renforcé le montant des peines encourues. Deux affaires récentes, appelées en novembre 2017, l'une devant le tribunal correctionnel de Pontoise et l'autre devant les assises de Seine-et-Marne, et concernant toutes deux des fillettes de 11 ans, ont profondément ému l'opinion publique. Le législateur n'a pas perdu une minute. Une commission a aussitôt été mise en place afin de tenter de déterminer le seuil, apparemment 15 ans, auquel le consentement d'une jeune fille mineure peut être considéré comme suffisamment éclairé. Un texte a été examiné par le Conseil des ministres le 21 mars dernier et le Sénat a déjà examiné en première lecture ce projet en modifiant d'ailleurs le projet gouvernemental. Tout va donc très vite. Et l'on ne saurait s'en plaindre, car la loi, même si tout cela est très subjectif, doit au cas présent être aussi précise et possible que possible, aussi précise que possible. Dans un tout autre domaine, deux sinistres judiciaires survenus fin 1984, l'un à L'Épanche, près d'Épinal, l'affaire dite du Petit Grégory, et l'autre à Poitiers, l'affaire dite Diallo, du nom d'un anesthésiste du CHU de cette ville, vont, en raison de l'émotion qu'elles ont suscitée, conduire entre les mois de juillet 1985 et le 10 décembre 1985, date de sa publication au Journal officiel, au vote d'une loi instaurant une collégialité pour l'instruction préparatoire. L'alternance de mars 1986 et une cruelle insuffisance de moyens qui avait conduit à différer la date d'application de cette loi ne permettront toutefois pas de mettre en œuvre ce texte. Elle n'interviendra, cette mise en œuvre, sous une forme différente que plusieurs années après. L'émotion fut très grande, souvenez-vous-en, dans les années 90, en tout cas dans certains milieux, lorsque plusieurs maires, préfets ou directeurs d'école ont été poursuivis pour homicide ou blessure involontaire, sur plainte de victimes d'accidents, survenus sur des terrains propriétés de l'État, ou dans des établissements soumis à son contrôle, l'affaire des thermes de Barbotan, de la dioxine d'Albertville, accidents survenus sur des espaces communaux tels que des terrains de sport, ou dans des cours d'école, ou lors de sorties scolaires ou estivales, l'affaire du Drac. Pour l'opinion publique et les intéressés, fort bien relayés, la justice et les textes en vigueur qu'elle se bornait à appliquer se montraient trop sévères. Les pouvoirs publics ont aussitôt pris en compte les doléances ainsi exprimées. Une commission fut créée et sur le rapport au Sénat de M. Fauchon, qui donna bien malgré lui son nom à ce texte, car il n'était pas seul, fut adoptée la loi du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels et rendant beaucoup plus difficile leur poursuite. Ce qui suscitera un nouveau mouvement d'émotion, mais en sens inverse cette fois, lorsque l'on s'apercevra que le rétrécissement de cette qualification pénale limitait notablement, voire rendait impossible, les poursuites exercées à la demande de centaines de victimes d'affaires dites de santé publique, telles que celles qui étaient liées à la transfusion sanguine ou à la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Dans un tout autre domaine encore, celui de la révision des procès criminels, en cas de survenance de faits nouveaux ou prétendus nouveaux, le poids de l'opinion publique ou de partie de cette opinion, savamment relayée et entretenue par des comités de soutien cette fois, a récemment joué un rôle important. Quelques affaires de révision ont ainsi suscité une réelle émotion, parfois régionale, parfois nationale, parfois les deux. L'affaire Omar Radad, Omar m'a tué, est plus près de nous, même si la condamnation date tout de même de 1924, l'affaire Guillaume Seznec. Les décisions de rejet des demandes de révision formulées en leur faveur, rendues en novembre 2002 pour l'une et en décembre 2006 pour l'autre, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme cour de révision, ont suscité, avec quelques affaires plus récentes, la création de comités de soutien, de livres, d'articles, et en 2013, la création d'une mission parlementaire qui, après des auditions, débouchera en un temps record sur la loi du 20 juin 2014 d'initiative parlementaire, modifiant le cas le plus fréquemment invoqué à l'appui d'une demande de révision et réformant profondément la procédure de révision, désormais confiée à une formation de la Cour de cassation, regroupant des représentants de toutes les chambres, civiles, commerciales, sociales, accessoirement criminel, l'avenir dira si le reproche qui était implicitement fait à la chambre criminelle de refuser de déjuger ses semblables était ou non fondé. Les exemples abondent, mais je m'en tiendrai là à ce stade. Et je m'en tiens là pour citer à l'inverse certains effets négatifs que l'opinion publique peut avoir en précipitant la conception et la fabrication de la loi pénale et en contribuant à sa complexification. Troisième et dernière partie, aspect négatif, donc tout d'abord obstacle à l'amélioration de la loi pénale. L'émotion et le trouble qui s'emparent de l'opinion publique peuvent tout d'abord faire obstacle, ne serait-ce que temporairement, au vote de textes pourtant nécessaires. La tuerie du Sofitel d'Avignon, survenue le 5 août 1983, 2 jours seulement après l'adoption en Conseil des ministres d'un projet de loi juridictionnalisant le droit de l'application des peines, a aussitôt mis un terme à cette réforme. L'émotion provoquée par ce drame ne permettait décemment pas d'évoquer une modification du droit des peines. Il faudra attendre 17 ans et une loi de juin 2000 portée par Mme Guigou pour que cette réforme réécrite et adaptée puisse enfin voir le jour. Vous savez d'ailleurs que d'une manière générale, réformer en France le droit des peines revient d'ailleurs le plus souvent à les aggraver, tant les pouvoirs publics redoutent la réaction d'une opinion publique maximaliste en ce domaine et qui ne veut pas admettre qu'il n'existe pas que la prison pour sanctionner des infractions de petite ou moyenne gravité. Une évolution semble perceptible. Les propos tenus le 6 mars dernier à Agen par le président de la République sont courageux, car ils vont à l'encontre de ce qu'exprime le plus souvent la majorité de l'opinion publique. Je ferme la parenthèse. Fragilisation de la loi pénale. En voulant répondre en urgence et à chaud à des attentes de l'opinion publique qui ne veut pas ou ne sait pas attendre, les responsables publics prennent le risque de mal légiférer. Ainsi, la version initiale de l'article 222-33 du Code pénal, punissant le harcèlement sexuel, dans sa version du 18 juin 1998, a dû être ultérieurement réécrite, le Conseil constitutionnel l'ayant déclaré contraire à la Constitution, une décision de mai 2002, car les éléments constitutifs de cette infraction étaient mal définis, ce qui contrevenait au principe de l'égalité des délits et des peines. Confronté aux effroyables attentats que nous avons connus, les pouvoirs publics, en présence d'une opinion terrorisée et meurtrie, exigeant d'être protégés, se devaient de réagir vite. Les services de renseignement souhaitant être en mesure d'anticiper et de renforcer leur action, les y invitaient fortement. Que constate-t-on ? Premier constat, une avalanche de textes législatifs, cela a déjà été dit, venant s'ajouter aux nombreuses lois votées depuis les tueries perpétrées par Mohamed Merah en mars 2012. Deuxième constat, rédigé dans une certaine précipitation et avant tout soucieuse d'efficacité, ces lois ont pris quelques libertés avec la Constitution. Saisie sur le fondement de questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a ainsi rendu 3 décisions de censure totale ou partielle. Ce fut tout d'abord le cas de l'article du Code pénal sur la consultation habituelle de sites terroristes, résultant de la loi du 3 juin 2016. Le Conseil a en effet jugé qu'elle portait atteinte à la liberté de communication, en n'étant ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement a fait ultérieurement voter un autre texte. C'est également le cas, censure partielle, de la disposition du Code pénal relative à la préparation d'un acte terroriste, c'est la loi du 13 novembre 2014, car sa formulation était, s'agissant du verbe « rechercher », trop large. Enfin, censure, comme contraire à la liberté d'aller et venir, de la disposition de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence, remise en vigueur lors des récents attentats, et qui donne au préfet la possibilité, je cite, d'interdire le séjour dans toute ou partie du département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. la recherche de plus d'efficacité dans la réponse pénale et le souci de montrer à l'opinion publique qu'elle a été entendue et comprise autorisent-elles à prendre tant de liberté avec le droit. Comme l'avocat qui a porté ses recours devant le Conseil constitutionnel, François Sureau, l'a souligné dans l'une de ses plaidoiries devant le Conseil, on peut parfois se poser la question de savoir si les principes n'ont de valeur que par temps calme. Légiférer vite et pour donner satisfaction à une opinion publique que l'on sent exaspérée peut également conduire à pénaliser des comportements de manière inefficiente, car il s'avère d'emblée que les infractions ainsi créées seront difficiles à constater, faute d'agents de constatation en nombre suffisant, difficiles à poursuivre et donc difficiles à sanctionner. C'est notamment le cas d'une infraction prévue en 2003 sur l'occupation en réunion des espaces communs et des toits des immeubles collectifs d'habitation. Tel est également le cas du racolage actif ou de l'achat d'actes sexuels que j'évoquais il y a un instant. Complexification de la loi pénale. Pour faire face dans certains secteurs de délinquance à une demande de répression toujours plus grande, mais aussi dans un légitime souci d'efficacité, les dispositions du Code de procédure pénale ont depuis une trentaine d'années fait l'objet de dispositions dérogatoires de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. C'est notamment le cas en matière de terrorisme, de lutte contre le trafic de stupéfiants ou contre la grande criminalité organisée. C'est le cas des délais de garde à vue qui sont allongés, des peines encourues qui, quoique prononcées par des tribunaux correctionnels, sont de la même durée que celles que prononcent les cours d'assises en matière criminelle. Les règles de prescription des délits et des crimes sont un exemple significatif de cette complexification. Le nombre toujours plus élevé d'infractions sexuelles dénoncées, poursuivies et jugées, et c'est un bien. Le fait que les victimes de tels actes hésitent à dénoncer les faits ou ne le font parfois que très tardivement, car il faut être en mesure d'effectuer une telle démarche, a conduit l'opinion publique à demander au gouvernement l'allongement des délais de prescription de l'action publique. En cas de viol commis sur un mineur, il est acquis depuis la fin des années 80 que la prescription part du jour de la majorité de la victime et non pas du jour des faits, soit 20 ans à compter de l'âge de 18 ans. Cette extension se comprend très bien, mais il faut avoir conscience qu'avec le temps, rapporter la preuve des faits commis devient de plus en plus difficile, la mémoire d'éventuels témoins étant moins fidèle et les témoins étant surtout de moins en moins nombreux. Pourtant, il est actuellement question, sous la pression, je pense légitime, de l'opinion publique, de porter ce délai de prescription partant de l'âge de 18 ans, de 20 ans à 30 ans. Là encore, il faut espérer que ce rallongement permettra d'améliorer la poursuite de ces agissements inqualifiables et ne sera pas pour les victimes générateur d'espoir déçu, la loi s'avérant en pratique trop difficile à appliquer. Dans un domaine sensible auquel l'opinion publique attache une importance toute particulière et qui représente donc pour le pouvoir politique un enjeu électoral important, celui de l'immigration et de l'asile, se discute actuellement un projet de loi faisant suite à une loi du 29 juillet 2015 réformant le droit d'asile et à une autre loi du 7 mars 2016 sur le séjour des étrangers. Or, il s'avère, et le Conseil d'État l'a relevé dans son avis, que différents articles de ces deux textes n'avaient pas encore été mis en œuvre. L'application de textes qui se chevauchent est rarement aisée. Enfin, altération, voire régression de la loi pénale. La légitime émotion éprouvée par les forces de l'ordre, lorsque, comme cela s'est encore produit récemment, des policiers sont brutalisés sur la voie publique, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, suscite désormais, de manière immédiate et systématique, des demandes très vives de renforcement des sanctions encourues. Sans prendre d'ailleurs le temps de constater qu'en ce domaine, les tribunaux font rarement preuve de laxisme, on réclame l'instauration ou le retour aux peines planchers, qui vont à l'encontre de la tradition du droit pénal français, qui laisse aux juges, que cela plaise ou non, le soin de déterminer eux-mêmes la peine prononcée. À l'occasion de différentes affaires, ayant, il y a quelques années, suscité de vives et légitimes réactions, une partie de l'opinion publique a manifesté le souhait de voir les auteurs des crimes les plus graves, en particulier les crimes de nature sexuelle, de voir ces auteurs tenus le plus longtemps possible à l'écart, afin de prévenir tout risque de récidive. Si l'on peut comprendre cette réaction, la réponse apportée par la loi du 25 février 2008 créant la rétention et la surveillance de sûreté a en revanche surpris et nourri de vives controverses. En fonction d'une dangerosité que les psychiatres, à leur propre dire, ne savent ni définir avec certitude et encore moins apprécier, la rétention de sûreté permet en effet, au terme de l'exécution de sa peine, de retenir l'auteur de l'un des crimes concernés par cette mesure dans un centre fermé et pour une durée susceptible d'être renouvelée sans réelle limitation. S'inscrivant dans une logique de pure anticipation qui est contraire aux principes fondamentaux du droit, ces mesures ont fait l'objet de la part du Conseil constitutionnel d'une réserve d'interprétation qui en a d'emblée réduit notablement les possibilités de mise en œuvre. Au surplus, sa conformité avec l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme pose un problème. Et enfin, la plupart des instances, Commission consultative des droits de l'homme, Contrôle général des lieux de privation de liberté, etc., qui s'intéressent à ces questions, ont régulièrement demandé l'abrogation de ces mesures. Donc les lois pénales circonstancielles peuvent se comprendre, mais elles doivent se garder de tout excès. Ne pas se focaliser sur le seul événement qui vient de se produire, mais voir loin, respecter l'équilibre qui s'impose entre la demande formulée et la réponse que l'on souhaite apporter lorsque cette demande mérite d'être prise en compte. Je conclus. Vous êtes patient, merci. Donc, au moment où il me faut conclure, sans doute estimerez-vous que ce propos a accordé trop de place aux anecdotes et aux exemples. Mais il s'imposait d'illustrer par des exemples, et je n'en ai retenu qu'un nombre infime, les développements auxquels ne pouvait que conduire l'intitulé de cette communication. La loi pénale de fond est censée dicter nos comportements, fixer les limites de ce qui est permis et de ce qui est interdit, et préciser les sanctions encourues si on l'enfreint. Son élaboration doit dès lors respecter des règles strictes, et elle doit être pour chacun claire, aisément lisible et accessible. Et il en va de même de la procédure pénale, cette règle du jeu que doivent respecter tous ceux, officiers de police judiciaire, juges, avocats, fonctionnaires de justice, agents pénitentiaires, qui doivent veiller au respect de la loi pénale de fond. La liberté des personnes et leur honneur est en cause, ce qui impose à ceux qui fabriquent la loi de la concevoir dans un minimum de calme, en sachant prendre de la hauteur pour ne pas se laisser influencer par l'émotion du moment. Il leur appartient d'en mesurer la portée, d'en peser les conséquences et donc les termes, et de veiller à ce qu'elle dure, car j'y reviens, une règle du jeu ne peut être constamment remise en cause sous peine de créer de l'insécurité dans un domaine où tout doit être clair, stable et cohérent. Parlant de la loi Guesso du 13 juillet 90, portant notamment sur la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité et qui fut débattue au Parlement en juin et juillet 1990, dans le contexte très spécifique de l'émotion suscitée par la profanation de tombes dans le cimetière juif de Carpentras au cours de la nuit du 8 au 9 mai 90, notre confrère, votre confrère Raymond Boudon, dans son ouvrage « Croire et savoir » écrivait ceci, je le cite, « On a multiplié en France les exceptions à la liberté d'expression. La loi Guesso érode une liberté fondamentale, mais son abolition serait grosse de difficultés. Ces effets de cliquet sont l'une des conséquences désastreuses de l'inflation législative, laquelle provient d'une préférence pour le symbolique et le court terme aux dépens du réel et du long terme. » Fin de citation. Alors prenons garde, car à trop vouloir répondre au coup par coup à l'actualité, à se méfier légitimement peut-être de la liberté et du pouvoir d'interprétation des juges, et donc de leur pouvoir créateur de droit, à travers des textes de portée générale qui sont déjà à leur disposition, à travers la jurisprudence existante, on risque de verser dans un autre extrême, de rendre la loi éphémère et de perdre surtout le caractère général qui doit caractériser la règle de droit. Ne confondons pas la loi et ce qui parfois ne relève que d'une circulaire d'application. Veillons à garder au droit un minimum de minceur et aux interventions du législateur une certaine rareté pour leur conserver une force intacte, ne nous abritons peut-être pas pour nous rassurer derrière la facilité de l'opinion publique est avec nous, comme on disait naguère, Dieu est avec nous. Et tentons de faire nôtre cette belle formule prêtée à Adrien Duport lors des débats du 31 mai 1791 sur l'abolition de la peine de mort, je le cite. « Ce n'est pas toujours par une obéissance ponctuelle et servile aux ordres de l'opinion que les législateurs portent les lois les plus utiles à leur pays. Souvent, ces lois n'ont de rapport qu'à des besoins momentanés et ne remédient qu'à des effets. Les résultats heureux et vastes qui décident du bonheur des peuples tiennent en général à la méditation et au calcul. » Fin de citation. Je ne saurais achever ce propos sur l'émotion sans avoir brièvement évoqué, ce sera peut-être un jour le thème d'une autre communication, l'émotion non pas celle que véhicule l'opinion publique, mais l'émotion personnelle qui envahit parfois celui qui doit appliquer la loi pénale. L'émotion du juge, du procureur, de l'avocat, lorsqu'il se trouve confronté à des situations dramatiques ou douloureuses, et c'est fréquent. Le juge, pour ne parler que de lui, doit trouver le point d'équilibre qui permet de ne pas se laisser envahir par une émotion trop forte et qui serait susceptible d'altérer l'impartialité qui doit être la sienne. Mais il ne saurait non plus être un être désincarné auquel serait interdit, par exemple, tout sentiment d'ordre compassionnel ou mieux d'attentive sollicitude. Il lui appartient, me semble-t-il, non pas de refouler ses émotions, mais d'en prendre pleine conscience pour, et c'est là que, comme dans toute profession, l'expérience compte, s'efforcer en prenant la mesure de les surmonter. Alors la déontologie et la discipline auxquelles tente de s'astreindre le juge, conscient de l'émotion qui l'étreint, le législateur, confronté à l'émotion populaire, ne pourrait-il pas de temps en temps se l'imposer lui aussi ? Je vous remercie.